Bonsoir. La reconquête de Mossoul a commencé. Les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui à Qayyarah, dernier verrou stratégique avant la grande ville du nord occupée par Daesh. Les explications de notre correspondante en Irak, Oriane Verdier, dans un instant. Le premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka ne veut pas d'une importante communauté musulmane dans son pays. Déclaration radicale qui intervient à deux jours de la visite d'Angela Merkel à Prague. Nous écouterons l'analyse du spécialiste de l'Europe centrale, Jacques Rupnik. La Russie privée de Jeux paralympiques pour cause de dopage. Le Comité international paralympique est allé plus loin que le CIO, nous expliquera Jérôme Val. En France, une femme affirme avoir été verbalisée sur une plage de Cannes parce qu'elle portait un simple voile islamique. Le Conseil d'État examinera jeudi les arrêtés municipaux visant les tenues religieuses ostentatoires. Nous verrons cela avec Marie-Pierre Véraud. C'est peut-être un tournant dans la guerre en Irak. L'armée irakienne a lancé aujourd'hui ce qui ressemble aux prémices de la bataille de Mossoul. La deuxième ville du pays est occupée par l'État islamique depuis 2 ans. L'offensive lancée ce matin vise à libérer la ville de Qayyarah, dernier obstacle majeur avant Mossoul, située une 60aine de kilomètres plus loin. La correspondance en Irak d'Oriane Verdier.
Après une journée d'intenses combats, l'armée irakienne est arrivée à libérer environ 90% de Qayyarah. Les forces spéciales ont notamment repris le contrôle de puits de pétrole, du bazar central et de l'hôpital. Mais les militaires tentent encore de neutraliser quelques points de la ville où les combats continuent. L'assaut a été lancé ce matin à 5h. Les militaires ont fait face à une forte résistance. Durant toute la journée, les avions de la coalition internationale ont appuyé l'offensive terrestre. Mais le porte-parole des forces spéciales irakiennes a également précisé avoir reçu l'aide de civils armés résidant dans le centre-ville de Qayyarah. Selon le maire, environ 15 000 personnes vivaient encore sous l'autorité de l'organisation État islamique. Au-delà de l'enjeu humanitaire, la reprise de Qayyarah permet également de reprendre le contrôle de la dernière zone urbaine qui séparait l'armée irakienne des abords de la grande ville de Mossoul. Qayyarah devrait devenir la rampe de lancement de l'offensive sur la ville même de Mossoul. En avançant par le sud, l'armée resserre petit à petit le front. Les forces kurdes, elles, entourent la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique par le sud, le nord et l'est. Enfin, l'offensive d'aujourd'hui va permettre d'isoler la deuxième ville du pays, Dawija, plus au sud, une poche forte de l'organisation État islamique.
Oriane Verdier depuis Erbil dans le Kurdistan irakien. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU redoute les conséquences de cette offensive sur Mossoul. Selon le HCR, les combats à venir pourraient provoquer le déplacement 1 million de personnes supplémentaires. Voilà une nouvelle illustration de la défiance des pays de l'Est vis-à-vis des migrants. Le premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, ne veut pas d'une forte communauté musulmane dans son pays. Propos polémiques tenus dans une interview au quotidien tchèque Pravo. Il s'agit surtout d'un message envoyé à Angela Merkel. La chancelière allemande, chantre de l'accueil des migrants, est attendue à Prague jeudi où elle sera accueillie justement par Bohuslav Sobotka. La République tchèque est hostile au quota de migrants imposé par l'Union européenne. Hostilité partagé par les autres pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne, mais les Tchèques ne sont pas forcément les plus radicaux. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jacques Rupnik, directeur de recherche au CERI Sciences Po.
Le plus modéré, c'est justement le Premier ministre tchèque, qui est un Premier ministre très pro-européen par ailleurs. Et je crois que pour Madame Merkel, il est le pont entre Merkel et Orban, le Premier ministre hongrois. C'est lui qui a la position la plus dure, la plus ferme. Le Premier ministre Fico en Slovaquie n'est pas en reste, puisqu'il a mené toute sa campagne électorale sur le thème « Jamais nous n'accepterons de migrants musulmans que veut nous imposer l'Union européenne ». La position de la Pologne est identique, pas de migrants imposés. C'est une question de souveraineté et une question de sécurité. Pourquoi ? Parce que les quotas sont un moyen d'imposer aux pays d'Europe de l'Est un modèle de société multiculturelle qui a échoué en Occident. Et d'ailleurs, le pays qui est le plus souvent cité en Europe centrale comme le pays par excellence de cet échec, c'est la France. Et ils ne connaissent pas la migration du Sud. En République tchèque, il n'y a très peu de musulmans. Ça prouve bien que la peur ou la crainte n'est pas forcément liée à la réalité du problème. La seule connaissance qu'ils aient du problème est celle qu'ils découvrent, parfois de façon superficielle, en Europe occidentale. qui leur sert plutôt de repoussoir.
Jacques Rupnik, qui fut conseiller de l'ancien président tchèque Václav Havel, il répondait à Thomas Schoner. Et pendant que les pays de l'Est se mobilisent contre la politique migratoire de Bruxelles, la Russie se pose une nouvelle fois en victime des Occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'aucun athlète russe ne participera aux Jeux paralympiques à partir du 7 septembre prochain à Rio. Le tribunal arbitral du sport a validé aujourd'hui l'interdiction prononcée par le Comité international paralympique. Le dopage généralisé chez les Russes explique que cette sanction bien plus sévère que celle infligée aux athlètes russes valides. Les explications de Jérôme Val.
Le Comité international paralympique n'a pas peur des mesures radicales. Le 7 août dernier, il avait prononcé le bannissement de tous les athlètes russes au nom de la lutte contre le dopage. Après la découverte d'échantillons suspects, il concernait 44 sportifs russes lors des JO de Sotchi en 2014. Pas de demi-mesure donc, comme pour le CIO qui n'avait pas osé exclure tous les sportifs russes avant les JO de Rio. Le Comité international olympique avait laissé aux fédérations le choix d'emmener ou non au Brésil certains athlètes. Résultat, la Russie, même diminuée, a terminé quatrième au tableau des médailles avec notamment 19 médailles en or. Comme chez les valides, les paralympiques russes avaient fait appel devant le TAS, appel rejeté donc aujourd'hui. Et là encore, aucune complaisance, mais toujours la même réaction venue de Moscou. C'est une sanction politique pour le ministre des Sports Vitali Mutko, plus politique que juridique, selon lui, jugeant qu'il n'y avait aucune raison pour ce rejet. D'autres acteurs du mouvement paralympique ont au contraire salué une décision courageuse, preuve selon eux de la tolérance zéro envers le dopage.
En France, le Conseil d'État examinera jeudi les arrêtés anti-burkini pris ces dernières semaines par plusieurs communes du littoral. Le tribunal administratif de Nice en a déjà validé deux, ceux de Cannes et de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Mais la Ligue des droits de l'homme conteste cette interdiction attentatoire, selon elle, aux libertés publiques. Et la polémique a pris une nouvelle tournure aujourd'hui avec cette affaire à Cannes. Une mère de famille affirme avoir été verbalisée sur la plage parce qu'elle portait un voile islamique. Les explications de Marie-Pierre.
Depuis la fin juillet, l'accès à la plage de Cannes est interdit à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. Il ne s'agit pas d'interdire le port de signes religieux à la plage, expliquait alors David Lisnard, mais je le cite, les tenues ostentatoires qui font référence à des mouvements terroristes. C'est en vertu de cet arrêté qu'a été verbalisée une jeune femme il y a 2 semaines. Elle ne portait pas de burkini, mais un voile. Elle se dit aujourd'hui très choquée par les invectives que lui ont lancées certains des vacanciers sur la plage. Une journaliste, Mathilde Cusin, a été témoin de l'épisode. Elle raconte avoir d'abord eu l'attention attirée par 3 policiers qui, la main sur leur grenade, se dirigeaient vers une jeune femme sur la plage. Elle aperçoit un attroupement et s'approche.
Et là, j'ai vu une jeune femme assise sur une serviette. Elle portait un voile en fait autour des cheveux, mais elle était habillée avec un t-shirt et un legging d'une manière très correcte. Le policier a demandé à la jeune femme d'enlever le voile autour de sa gorge et de le mettre uniquement autour de ses cheveux. Voilà, il lui a dit que si elle mettait le voile uniquement autour de ses cheveux, c'était une tenue plus correcte et plus appropriée et qu'elle ne serait pas verbalisée. La jeune femme a répondu qu'elle considérait avoir une tenue plus que correcte et elle lui a répondu « Mais monsieur, vous êtes en train de me mettre une amende parce que je suis musulmane. » Et le policier lui a répondu « Madame, c'est la loi. » Il y a eu plusieurs vacanciers autour qui se sont mis à lui dire de rentrer chez elle. C'était rentrer chez vous, madame. On veut pas de ça ici. La loi, c'est la loi. Maintenant, il faut la respecter, etc., etc. C'est vrai que la jeune femme était en larmes. Sa petite fille était en larmes aussi. Je vous cache pas que j'ai moi-même pleuré, en fait, en assistant à cette scène parce que moi, j'ai vu une jeune maman avec sa fille en larmes et j'ai vu des gens s'acharner autour. C'est une jeune femme qui était lapidée à coups de mots, en fait, sur une plage.
La scène illustre peut-être les dérives auxquelles pourraient conduire les arrêtés très généraux pris par un certain nombre de maires, notamment sur la Côte d'Azur. À partir de quand considère-t-on qu'une tenue est ostentatoire et porte atteinte à l'ordre public? Jusqu'où peut-on interdire? Un simple voile peut-il être banni de l'espace public? C'est tout l'enjeu du débat juridique qui se tiendra devant le Conseil d'État, saisi par la Ligue des droits de l'homme contre un arrêté similaire pris par la commune de Villeneuve-les-Loubet.
Marie-Pierre Véraud, c'est donc jeudi à 15h que la plus haute instance administrative française se penchera en séance publique sur ces arrêtés polémiques. Le Conseil d'État devrait rendre sa décision très rapidement d'ici la fin de la semaine normalement. On termine avec la météo. Demain, temps de plus en plus chaud et ensoleillé sur tout le pays. 14 départements placés en vigilance orange canicule. Il s'agit de l'ensemble de l'Île-de-France, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord et de Lyon. Les températures maximales 22 à 28 degrés de la Bretagne au Cotentin, 28 à 31 degrés sur les autres régions littorales, jusqu'à 36 à 37 degrés dans le sud-ouest, le centre et l'Île-de-France. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.